Voilà, nous arrivons à notre dernier message et nous allons nous tourner à nouveau vers l'Écriture pour nous mettre à l'écoute de notre Seigneur, comprendre davantage l'évangélisation, la mission qu'il attend de nous. Dans le premier message, nous avons vu l'ordre missionnaire que Christ avait donné à son Église juste avant de monter au ciel. Dans le deuxième message, nous avons vu comment cela pouvait se mettre en pratique un petit peu dans l'Église, se partager entre des évangélistes, des gens que Dieu a donnés à l'Église pour l'équiper pour l'évangélisation, pour amener l'Évangile là où il n'est pas encore, et puis les témoins que nous sommes tous, que Dieu place dans son champ, qui est le monde. Et dans ce dernier message, je voudrais vous inviter à nous tourner vers un des exemples que nous trouvons dans l'Écriture, de comment l'Église a pu mettre tout cela en œuvre. Et nous allons regarder l'Église d'Antioche, qui est un petit peu une des villes importantes dans le livre des Actes et aussi une des églises clés. Et je vous invite à lire dans Actes au chapitre 11, les versets 19 à 30. Et nous lirons également Actes chapitre 13, les versets 1 à 3. Actes chapitre 11. À partir du verset 19. Je le redirai au... Actes chapitre 11, à partir du verset 19. Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit. Et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. Car c'était un homme bon, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas partit ensuite pour Tarse, afin de chercher Saul. Et après l'avoir trouvé, il le conduisit à Antioche. Pendant une année entière, ils participèrent aux réunions de l'Église et enseignèrent une foule assez nombreuse. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. En ces jours-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, du nom d'Agabus, se leva et déclara par l'Esprit qu'il y aurait une grande famine sur la terre entière. Elle eut lieu, en effet, sous Claude. Les disciples décidèrent d'envoyer, chacun selon ses moyens, un secours aux frères qui habitaient la Judée. C'est ce qu'ils firent. Ils l'envoyèrent aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Et nous tournons juste après au début du chapitre 13. À partir du verset 1, il y avait dans l'église qui était à Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laisser partir. Alors, Antioche est un des modèles d'église qui nous est le plus développé dans le Nouveau Testament avec celle de Jérusalem. Et je vous propose ce matin de regarder au travers de cette église quels piliers nous trouvons dans ce texte pour une église qui soit missionnaire, une église engagée dans la mission selon le modèle du Nouveau Testament. Et l'idée, c'est qu'au travers de ce texte, nous puissions réfléchir et que vous puissiez réfléchir comment individuellement je peux suivre cet exemple dans ma vie et comment en tant qu'église, en tant que communauté, nous pouvons aussi suivre cet exemple pour être une église qui soit engagée dans la mission. Et puis à la fin du message, je vous laisserai quelques questions de réflexion que vous pourrez noter et je vous encourage à re-réfléchir à ces questions à titre personnel et peut-être aussi en église ou avec le conseil pour réfléchir à comment votre église locale peut être aussi une église orientée vers la mission. Alors Antioche, c'était la troisième cité de l'Empire romain derrière Rome et Alexandrie. C'était une des plus grandes métropoles de l'époque. C'était une ville multiculturelle. Il y avait non seulement des Juifs qui étaient de passage par ici, mais aussi des Grecs, des Romains qui parlaient latin. Et puis, comme on le verra, il y avait des gens de tout l'Empire, y compris d'Afrique du Nord et même au-delà. Et sans doute pour vous qui êtes une église qui vivait dans un grand centre urbain, à Lyon, vous avez une idée à peu près de ce que pouvait représenter une ville comme Antioche, une ville très cosmopolite, avec un brassage de culture, un brassage social, et aussi tous les problèmes que ça pouvait comporter, des conflits entre les communautés, des problèmes de langue et ce genre de choses. Et quelque part, Antioche se retrouve à un moment confronté à l'annonce de l'Évangile. Mais si vous regardez comment ça se passe, ça ne se passe pas d'une manière extrêmement joyeuse. On voit au début du verset 19, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Le contexte dans lequel nous nous trouvons, ce n'est pas simplement une belle réunion où quelqu'un a prêché, a demandé aux gens de partir en mission, et puis ils sont partis tout joyeux, la fleur au fusil. C'est quelque chose qui est beaucoup plus dramatique. On est dans une situation où l'Église était restée à Jérusalem. Christ avait demandé d'aller dans toutes les nations, mais ils sont restés à Jérusalem pendant un certain temps. Et jusqu'au jour où la persécution survient. Et notamment, il y a eu la mort d'Étienne. Et on se souvient de ce jeune homme, Saul, qui tenait les vêtements lorsqu'Étienne était lapidé. Et il est dit quelques versets après, dans Actes au chapitre 8, au début du verset 8, que Saul ravageait l'Église. Et à cause de cela, les chrétiens vont devoir se disperser. Et donc nous sommes dans une situation où nous avons des chrétiens qui ont perdu leur ville, qui ont perdu peut-être leur maison, qui ont perdu leur emploi, et qui sont en train de fuir simplement pour sauver leur vie. Un contexte difficile. Et ce qui est intéressant de noter, et ce sera le premier pilier d'une église en mission, c'est de regarder la foi et la vision de ces chrétiens-là. Et j'ai beaucoup apprécié dans le début de culte, nous avons parlé de la confiance. Quand les ennemis sont face à nous, comment nous réagissons? Est-ce que nous nous apitoyons? Et après tout, ils auraient pu dire, bof, la mission, si Dieu avait voulu qu'on continue, il avait qu'à s'occuper mieux de nous. Maintenant qu'on est dispersés, on va d'abord chercher une maison, un nouveau boulot, etc., etc. Et non, ces chrétiens-là font confiance à Dieu. Si vous vous rappelez, dans le premier message, nous avons parler du mandat missionnaire, et Jésus a commencé ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Il est parfaitement maître des temps et des circonstances. Il est sur le trône, il contrôle toutes choses. Et quelque part, ces chrétiens-là, qui sans doute ne devaient pas comprendre ce qui leur arrivait, ont cette vision-là. Dieu est aux commandes. Dieu est aux commandes. Ils ont la foi, la confiance, et en même temps, ils gardent la vision pour l'évangélisation. Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors qu'ils sont dispersés, ces chrétiens-là qui pourraient faire une priorité de retrouver une sécurité, une stabilité, au contraire, ils annoncent l'évangile. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas de professionnels. C'est simplement monsieur tout le monde, tous ceux qui avaient été dispersés. Ce sont les chrétiens qui se retrouvent dispersés au gré des circonstances et qui gardent confiance en Dieu et qui annoncent l'Évangile. Ce qui est intéressant, c'est que, peut-être le contexte l'explique, mais le quartier général à Jérusalem ne les a pas empêchés. On les a laissés aller, parce que Christ avait donné cet ordre et c'était normal qu'ils annoncent l'Évangile. À noter que ceux qui sont partis de Jérusalem étaient encore assez timides. Ils ont annoncé la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Mais heureusement, dans le lot, il y en a d'autres. Au verset 20, il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs. Dans cette ville cosmopolite, différentes origines se rencontrent, et il y a des chrétiens aussi de différentes origines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment, c'est les chrétiens d'autres cultures qui vont pouvoir annoncer à leur propre culture. Et ça pose la question, dans l'Église, comment est-ce que nous réagissons quand quelqu'un arrive avec un arrière-plan différent, un vécu d'église différent, une culture différente? Est-ce que nous croyons que cette personne-là est un perturbateur qui va venir perturber notre culture? Ou est-ce qu'au contraire, nous considérons que c'est aussi une valeur ajoutée et que Dieu, au travers de lui, nous donne le moyen de partager l'évangélisation pour que d'autres puissent entendre? Et c'est ce qui se passe à Antioche. Ceux d'origine juive parlent aux juifs, mais il y a aussi ceux qui sont bercés dans le contexte de l'Empire romain, qui connaissent le grec, qui commencent à parler aux Grecs. Et les Grecs se tournent aussi vers Jésus. Ça pose la question pour nous. Comment est-ce que nous voyons l'évangélisation? Est-ce que nous essayons de contrôler, de figer? Ou est-ce qu'au contraire, nous faisons confiance à Dieu, que lui est souverain, qu'il dirige, et nous restons fixés sur sa mission? Pour nous, les enjeux que ce premier point concerne, c'est est-ce que nous avons une vision pour le monde perdu ou est-ce que nous manquons de vision? Est-ce que nous sommes perturbés par les circonstances dans lesquelles nous sommes? Les problèmes avec l'immobilier de l'Église? Les problèmes avec les soucis à droite ou à gauche? Les problèmes avec tel ou tel qui va mal? Ou est-ce que nous gardons la vision du monde perdu? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu ou est-ce que nous sommes paralysés par la peur? Nous avons vu dans le premier message qu'il était normal d'avoir des doutes. Les doutes font partie de notre condition. Mais si ces doutes nous paralysent, ça veut dire qu'à un moment, nous avons perdu la vision de Christ qui est sur le trône. Si nous avons en tête cette vision de Christ qui a tout accompli, tétélestai, j'ai beaucoup aimé quand Nasser a partagé ça, et il y a une expression dans laquelle tétélestai était utilisée, c'était l'artiste qui faisait un tableau, et au moment où il met la touche finale, il dit tétélestai, tout est accompli. Et à la croix, Christ a accompli ce grand tableau, cette grande mission qui va jusque dans l'Apocalypse où il y a toutes ces nations devant le trône. Et si nous gardons ça en vue, alors nos doutes s'effacent, parce que Christ est souverain et il est en train de manifester ce tableau au travers de nous. Posons-nous la question, quelle vision avons-nous du monde? Comment traitons-nous les peurs, l'opposition? Et à la manière de l'église d'Antioche, que nous puissions avancer avec confiance et avec vision pour le monde qui est perdu. Si on continue, nous voyons un deuxième point dans cette église, c'est la fidélité à l'évangile. Nous voyons qu'ils annoncent aux juifs et puis aussi aux grecs la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Ce qui est très intéressant, c'est que dans cette église, il y a un mouvement géographique, un mouvement culturel, ils vont vers les grecs, mais il y a aussi un mouvement théologique. Alors dans la version française, on le voit assez difficilement, mais jusqu'à présent, dans le livre des Actes, il était question de prêcher le Christ Jésus. Le Christ, c'est-à-dire le Messie. Quand Philippe va à Samarie, il est dit qu'il prêcha le Christ, le Messie. Mais ici, l'expression qui est utilisée dit qu'ils ont prêché le Seigneur Jésus. Et Seigneur, en grec, c'était le mot kurios, qui était le mot qui était utilisé dans la version grecque de l'Ancien Testament pour désigner Dieu. Au moment où ils annoncent que Jésus est Seigneur, dans l'Empire romain de l'époque, c'est une révolution. Parce que celui qui a le titre de kurios, de Seigneur, c'est l'empereur. C'est l'empereur dans l'Empire romain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque les chrétiens sont arrivés à Antioche, qu'ils ont touché une nouvelle ville, une nouvelle culture, ils ont aussi adapté ce message aux enjeux de cette culture-là. Ils arrivent dans une situation où dans l'Empire romain, on pouvait adorer tous les dieux que ce soit du moment où l'empereur restait seigneur. Mais face à l'évangile de Jésus-Christ, l'empereur doit perdre cette place-là. Et ça pose question. Est-ce que nous, dans notre annonce de l'évangile, nous confrontons la culture? Ou est-ce que Jésus est juste quelque chose de plus qu'on vient ajouter à notre culture? Et je crois que ça doit poser question, parce que parfois nous avons une approche où nous annonçons l'évangile et nous disons par exemple aux jeunes, dans ta vie tu as ceci, tu as cela, mais tu vois bien que tout ça ne te comble pas. Et il te manque quelque chose, et cette chose-là c'est Jésus. Et nous amenons l'évangile comme si Jésus était un truc de plus qui, ajouté à tout le reste, allait apporter le bonheur. Mais ce n'est pas l'évangile. Si Christ est Seigneur, ça veut dire que lui doit prendre la première place et que le reste doit passer en dessous. L'évangile dans la culture de l'époque est révolutionnaire. Ce n'est pas simplement un message spirituel, c'est un message qui englobe toute la vie et qui, dans ce contexte-là, est aussi politique. Vous ne pouvez pas continuer à servir l'empereur comme vous le serviez avant, parce que Christ est le seul Seigneur. Et ça pose la question dans notre société. Qui sont les Césars de notre monde qui doivent être détrônés pour laisser la place à Jésus? Nous pensons à la consommation. Notre société court après les derniers gadgets à la mode. Celui-là, il est déjà vieux, il a 3 ans, mais j'aurais pu le changer 3 fois si j'étais un Apple addict. Et est-ce que c'est normal que César, Apple, on le court après lui au même moment où parfois on délaisse l'Évangile? Comment est-ce que nous engageons la sexualité débridée qu'il y a dans notre société? Je consomme, je jette. Et cela est dans le monde, mais cela aussi dans l'Église. Combien dans nos églises sont addicts à la pornographie sur Internet quand personne ne le voit? Qu'est-ce que Christ a à dire à tout ça? Comment est-ce que nous gérons l'idolâtrie du pouvoir, du succès, de la carrière? Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous voulons que nos enfants aient la meilleure carrière possible, qu'ils enchaînent les bacs plus, qu'ils soient ingénieurs, qu'ils aillent jusqu'à Polytechnique, l'ENA si c'est possible? Ou est-ce que nous voulons qu'avant tout, Christ soit le Seigneur de leur vie, que lui ait la première place et qu'il garde le centre, quel qu'en soit le prix? Comment est-ce que nous engageons les faux dieux du relativisme? Est-ce que nous acceptons avec le monde de dire « Oui, dans un sens, chacun choisit ce qu'il veut » Ou est-ce que nous osons affirmer avec courage que hors de Christ, il n'y a point de salut, qu'un jour ce monde sera jugé et que tous devront lui rendre des comptes? Tous ces idées-là doivent être détrônées pour laisser la place à Jésus-Christ. Et c'est quelque chose qui coûte. À l'époque, on risquait gros pour dire ça. C'est pour ça que dans l'Empire romain, les chrétiens ont été persécutés pendant des siècles. Et la question, c'est est-ce que nous sommes prêts à rester fidèles à l'Évangile, à annoncer un Évangile qui annonce non seulement que Jésus sauve, mais aussi qu'il demande une obéissance totale et qu'il y a un prix à payer. Si vous vous rappelez, hier, quand on regardait les étapes sur l'avancée de quelqu'un jusqu'à Christ, il y avait ce point -4, comprendre les implications de l'Évangile. Et parfois, je crains que nous annoncions trop vite, Jésus veut te sauver, Jésus veut bénir ta vie, etc., sans parler de la vie de disciple qu'un chrétien doit suivre. Si Christ est tout pour nous, alors tout le reste passe en second plan, et nous devons être prêts à mourir pour lui, c'est aussi l'Évangile. C'est intéressant de regarder dans d'autres cultures comment ils traduisent cela. La semaine passée, lorsque j'étais en Inde, j'entendais le témoignage d'une chrétienne d'une église de Chine qui racontait comment dans son église de maison, ils sont arrêtés le dimanche matin et libérés le dimanche après-midi. Et ça fait 2 ans que ça dure, tous les dimanches. Est-ce que nous sommes prêts à tenir dans ce contexte-là? Et si Jésus n'a pas plus de valeur que les Césars de ce monde, nous ne tiendrons jamais. Mais si Christ est plus que le gouvernement, plus que les idéologies ici-bas, alors nous pouvons dire, il a la première place, et peu importe le prix, je suis prêt à y aller. Pour nous, cela implique différents enjeux. Est-ce que nous avons confiance dans le message biblique? Est-ce que nous croyons que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit? Parce que nous annonçons l'Évangile, nous en avons une compréhension théorique, mais est-ce que nous croyons vraiment que seul cet évangile peut sauver nos contemporains qui sont condamnés à l'enfer? Est-ce que nous avons des risques de déformation de l'évangile? Est-ce que nous essayons de l'atténuer, de faire des compromis? Ou est-ce qu'au contraire, nous adaptons le message à notre contexte et nous engageons les défis de notre temps? Je laisse tout ça à votre réflexion, aussi bien personnelle que communautaire. La troisième chose que l'on voit dans cette église d'Antioche, c'est qu'ils vivaient dans la sainteté. Si vous regardez au verset 21, il est dit que la main du Seigneur était avec eux. Et parfois, nous disons, mais comment ça se fait que dans cette église, la main du Seigneur était avec eux et que nous le voyons si peu? Et je crois que si nous regardons au travers de la Bible, toutes les fois où Dieu est présent, et dans l'Ancien Testament, c'est très très clair avec le peuple de Dieu, là où nous suivons ses commandements, Dieu est présent avec nous. Là où nous détournons, nos prières ne sont pas exaucées et nous perdons la puissance. Est-ce que dans nos vies, dans nos églises, il y a des péchés qui sont cachés? Des choses qui sont là, que nous traînons et que nous refusons de confesser et qui font obstacle à l'Évangile, qui empêchent Dieu d'agir comme il le souhaiterait au milieu de nous? Ça peut être des conflits, ça peut être des problèmes d'ego. Ça peut être les péchés que tu fais et que personne ne voit. Et puis il y a aussi tout ce que Dieu nous invite à faire et que nous ne faisons pas. Est-ce que nous vivons conformément à l'Écriture, en prenant soin des autres, en ayant de la compassion? Souvent, nous avons notre checklist de ce que c'est qu'un bon chrétien. Il aime sa femme, il ne boit pas, il ne se drogue pas, etc. Mais quand nous regardons dans l'Écriture, nous voyons que les critères vont nous déranger beaucoup plus. C'est Jacques, quand il parle de la vraie religion, de l'apparence que doit avoir notre foi, à la fin de Jacques chapitre 1, il dira trois choses. Si quelqu'un ne sait pas tenir sa langue en bride, sa religion est vaine. Ça nous concerne tous. Ensuite, il dira que la vraie religion consiste à visiter les veuves et les orphelins dans leurs afflictions. Est-ce que nous allons aimer notre prochain comme Christ l'a aimé? Et puis Jacques dit aussi que la vraie religion consiste à se garder des souillures du monde. Et je crois que parfois nous avons tellement mis l'accent sur l'éthique du chrétien que nous nous coupons du monde pour ne pas nous souiller. Mais nous avons aussi perdu l'aspect que la vraie foi que Dieu attend de nous, c'est que nous allions dans le monde parce que Dieu veut racheter le monde et que nous allions à l'inverse de notre société, aimer les gens, réconcilier les exclus, aller parler à ceux que le monde ne veut pas voir et qui sont intouchables. On parlait hier des Roms. C'était incroyable de voir comment les Roms ont pu être stigmatisés il y a quelques années. Comment, en tant qu'Église, nous nous positionnons? On pourrait parler de tas d'autres fléaux. Combien de prostituées sont abusées dans les rues de Lyon, la nuit? Des filles souvent qui viennent des pays de l'Est, qu'on a arrachées sans rien leur demander, et qui sont en esclaves à côté de nous. Qui les visitera? Qui ira annoncer que Christ est venu pour libérer les captifs? Et nous ne pouvons pas juste mener une vie sainte en nous détournant du monde. Nous devons aussi, comme Christ, y aller, engager le monde, montrer la compassion. Ça coûte, mais si Dieu est avec nous, alors ça en vaut la peine. Ça implique de regarder dans nos vies et dans l'Église, comment est-ce que nous traitons le péché personnel? Comment est-ce que nous vivons de manière conforme à l'Écriture sur tous ces aspects? Je vous encourage, dans l'Église, à peut-être mettre en place des groupes de redevabilité, où chaque semaine, vous pouvez vous retrouver à deux ou trois et vous poser les questions qui dérangent. Qu'est-ce que tu as fait quand tu étais tout seul sur Internet, mon cher frère? Ayez le courage d'être des bergers les uns pour les autres, de veiller, de prier, pour que nous puissions grandir dans la sainteté et que la main de Dieu soit sur nous. Si nous continuons, nous voyons ensuite que cette Église anticipait la croissance. Nous voyons que lorsque ça a commencé à grandir, ils ont eu besoin d'aide. Ils ont accepté que l'Église de Jérusalem qui était à côté leur envoie un Barnabas, quelqu'un qui venait pour les encourager avec à la fois des capacités d'évangéliste, des capacités d'enseignant. Au verset 22, Barnabas arrive, il est dit verset 23, lorsqu'il fut arrivé, qu'il vit la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur résolu, attaché au Seigneur. L'Église grandit, de nouveaux disciples s'ajoutent, mais ils ont besoin d'avancer dans la maturité. Qu'est-ce que c'est la maturité d'un disciple? Quand nous regardons dans le monde, nous parlons de la maturité pour un être humain sur le plan biologique ou pour une plante ou n'importe quel être vivant. Nous parlons de la maturité quand il y a capacité à se reproduire, à donner la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur le plan spirituel, nous devrions considérer qu'un disciple est mature quand il commence à se reproduire dans un autre disciple. Ça peut être au travers de l'évangélisation, mais ça peut être aussi dans l'Église, en prenant un plus jeune chrétien, en l'aidant à lire la Bible, à démarrer dans sa vie chrétienne. Et je crains que parfois nous ayons mis la barre très très bas sur ce que c'est qu'un disciple. Nous annonçons l'Évangile, la personne se tourne vers Christ, nous l'accompagnons jusqu'au baptême, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Et je crois que l'Écriture nous invite à avoir une ambition plus haute, à aider chaque personne dans l'Église à identifier ses dons. Quel est l'appel unique de Dieu sur sa vie? Comment est-ce qu'elle va pouvoir utiliser ses dons pour être engagée dans la moisson? Et comment elle peut commencer à redonner à d'autres ce qu'elle a reçu? Je vous encourage dans ce sens à réfléchir, à regarder où en sont les gens et essayer de faire que lorsque quelqu'un avance et qu'il grandit en connaissance, il commence à servir tout de suite vers ceux qui sont moins avancés que lui dans la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque quelqu'un se convertit, une des premières choses qu'on devrait l'encourager à faire, c'est à commencer à témoigner à ceux qui ne sont pas encore convertis. Bien sûr, il ne connaît pas tout. Mais souvent, nous avons ce souci, c'est que nous croyons que pour grandir, il faut d'abord connaître, et ensuite nous grandissons, et parce que nous grandissons, nous pouvons servir. Mais Jésus ne fonctionne pas comme ça. Il enseigne une vérité, la connaissance, il demande un service, l'action, et parce que nous servons, nous grandissons. Si nous gonflons uniquement des têtes et que nous avons des cerveaux chrétiens extrêmement développés, nous pourrons tout connaître. Mais quand est-ce que nous allons agir? Le disciple, ce n'est pas celui qui a la tête bien pleine, c'est celui qui suit Christ dans l'obéissance jour après jour. Alors lorsque quelqu'un se convertit, encourageons-le à témoigner. Et puis lorsque la personne se fait baptiser, pourquoi ne pas la prendre avec vous pour accompagner un autre jeune converti jusqu'au baptême? L'ordre de faire des disciples n'a pas été donné simplement à des anciens ou à des seigneurs dans la foi. Il est donné à chacun d'entre nous. Et lorsqu'un jeune converti a passé 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois à faire des études bibliques, à apprendre sa foi, à commencer à prier, et qu'il passe par les eaux du baptême, quelque part il comprend toutes les étapes par lesquelles il a dû passer. Là où pour vous ça remonte peut-être à 5 ans, 10 ans, 20 ans, pour lui c'est tout frais. Et il peut aller voir un autre plus jeune dans la foi qui vient de se convertir et lui dire « Mais regarde ce que j'ai découvert !» Alors peut-être qu'il ne va pas le faire avec les meilleurs mots, peut-être qu'il ne va pas utiliser toute la rigueur théologique, mais il aura la fraîcheur, la joie de celui qui vient de découvrir un trésor et qui a envie de le communiquer. Et puis, lorsque quelqu'un commence à découvrir ses dons, et qu'il commence à s'impliquer dans l'Église, et pourquoi ne pas l'encourager tout de suite à dire « Mais est-ce qu'il y a un autre chrétien qui n'est pas encore impliqué et que tu peux prendre sous ton aile, comme Barnabas l'a fait, pour l'encourager, pour l'amener à grandir ?» Le risque avec ça, c'est que les responsables perdent leur place. Parce que si nous développons les dons de tout le monde, mais il y a un moment, il n'y a que des responsables. Et il n'y a plus de chrétiens lambda consommateurs. Est-ce que c'est grave? Non. Nous sommes tous là pour être disciples. Pourquoi? Parce que notre vision ne doit pas être à la hauteur de notre précaré, de notre église locale. Elle doit être à la hauteur du monde qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre et qui a besoin que l'évangile avance. Le jour où vous aurez 15 anciens en formation, envoyez-en 5 dans un autre endroit du département où il n'y a pas encore d'église. Ils commenceront à démarrer autre chose. Nous devons réfléchir à équiper des disciples pour ensemencer ce champ qui est le monde. Et il y a de la place pour tout le monde. Si nous regardons juste à la hauteur de l'Église et que nous sommes 80, 100 personnes et que nous pensons à un système qui permette de gérer tout ça, forcément il y a peu de place pour s'investir. Mais si nous regardons à la hauteur d'une ville comme Lyon et que nous disons nous avons besoin d'une armée de disciples pour amener cette ville à Jésus-Christ, alors chaque chrétien doit être équipé avec ses dons pour être un ouvrier dans la moisson. Je crois que c'était la vision que Jésus avait, et c'est ce qui explique que dans les actes, il y avait une telle multiplication, et pas simplement une addition. Pourquoi? Parce que ceux que Dieu avait donnés à l'Église, les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, ne faisaient pas le ministère. Ils équipaient les saints pour que eux fassent le ministère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, quelque part, on ne devrait pas attendre de nos anciens qu'ils soient toujours les premiers à faire. Mais au contraire, on devrait attendre d'eux qu'ils s'investissent dans la vie des autres pour que eux fassent. Vous voyez ce que je veux dire? Le fruit dans nos vies, c'est des gens qui vont nous suivre et qui vont faire les choses comme nous et si possible mieux que nous pour que l'Évangile puisse se répandre et continuer. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Est-ce que nous travaillons à amener les disciples à la maturité? Combien de temps nous passons dans tout cela? Je me rends compte que même quand on est serviteur à plein temps, on peut passer une semaine entière à faire des tas de choses et tellement peu de temps à former des disciples. Mais Christ a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Quand est-ce que tu as passé une heure avec un non-chrétien, avec un plus jeune dans la foi, pour l'aider dans sa vie de disciple? C'est ça qui compte. C'est la mission que Jésus nous a donnée. Peut-être que parfois nous n'osons pas appeler à l'aide, comme Barnabas qui a appelé Paul. Et nous sommes enfermés, nous voyons que l'Église n'arrive pas à grandir. Ayons le courage d'aller voir une autre Église, d'aller voir un autre ministère, de peut-être dire, nous sommes dans une situation critique, où si nous voulons que l'Église grandisse, il faut renforcer tel point. Et pour cela, nous avons besoin d'un docteur, d'un évangéliste. Osons aller le chercher. Barnabas a été jusqu'à Tarse chercher Saul. À l'époque, ce n'était pas une heure d'avion, c'était peut-être 2 semaines de voyage pour aller chercher Paul et pour le ramener à Antioche, parce qu'il était convaincu que si cette Église continuait à grandir, il fallait qu'elle ait des leaders pour l'accompagner. Est-ce que nous acceptons de partager notre place ou est-ce que nous voulons nous cramponner? Ça marche avec tous les domaines, c'est vrai pour les leaders, mais même dans tout ce que tu fais. Si ton rôle dans l'Église, c'est de préparer le pain et le vin pour la Sainte Cène avant le culte, pourquoi ne pas prendre un jeune avec toi pour que lui puisse commencer à servir? Et entre-temps, discute avec lui, parle de sa vie de disciple, comment tu vis ta foi, quels sont tes combats, et encourage-le vers la maturité. Quand nous regardons, 5e point, dans cette Église, ils avaient un témoignage extérieur qui honorait Christ. Et c'est un point sur lequel nous devons veiller. Si vous regardez au verset 26, ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. C'était un sobriquet. Les petits Christ, ils ressemblaient tellement à Jésus. Et ça nous pose la question, est-ce que nous ressemblons à Jésus personnellement et collectivement? Est-ce qu'au travers de nous, le monde voit Jésus? Je crois que souvent, malheureusement, ce n'est pas le cas. Et il me semble que si ce n'est pas le cas, c'est parce que nous avons privilégié à outrance l'aspect moral de l'Évangile et délester l'aspect service de l'Évangile qui nous envoie dans le monde pour bénir et pour servir. Qu'est-ce qui était unique chez Jésus? C'est qu'il passait son temps avec les gens les plus méprisés de la société, les pécheurs, les prostituées, n'importe qui pouvait venir à lui, goûter de sa présence. Il était disponible pour servir avec compassion. Comme je le disais hier, pendant des années, les champions des Français ont été l'abbé Pierre, Sœur Emmanuel, Mère Teresa, des gens qui, pour eux, ressemblaient à Jésus. Ça ne veut pas dire qu'ils avaient tout compris, nous sommes bien d'accord. Mais pour nos contemporains, c'est ce visage-là de l'Église qu'ils attendent. L'Église grandit quand elle s'occupe de ceux qui sont délaissés et qu'elle montre à quel point ils sont importants pour Dieu. Si vous regardez dans le livre des Galates, lorsque Paul raconte ses premières rencontres avec les apôtres, et qu'il explique comment il a été envoyé en mission, il est dit ceci, il est dit, après avoir prié, ils nous donnèrent la main d'association, nous laissèrent partir, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres. Est-ce que vous vous rendez compte? Lorsque l'Église a envoyé Paul en mission, les apôtres lui ont dit, Paul, souviens-toi d'une seule chose, souviens-toi des pauvres. Ça veut dire que souvent, nous considérons l'action sociale comme quelque chose qui va nous distraire de notre mission. Si nous passons tellement de temps à s'occuper des cas sociaux, de la veuve, de l'orphelin, ça va nous bouffer. Mais les apôtres avaient une vision tellement différente. Paul, tu ne peux pas réussir dans la mission si tu ne te souviens pas des pauvres. C'est lorsque tu es au niveau de ceux qui sont le plus bas, comme Jésus l'a été, que tu as ta crédibilité pour parler de l'Évangile. Le problème dans l'Église aujourd'hui, je crois, ce n'est pas que nous ne sommes pas assez visibles, pas assez rayonnants, pas assez médiatiques, c'est que nous ne sommes pas assez bas aux yeux du monde. Le monde attend que nous nous baissions, que nous allions rencontrer ceux dont personne s'occupe et que nous les sortions de la boue pour les élever et dire « Regardez comme ils sont importants à Dieu ». Et lorsque cela se passe, c'est un témoignage visible pour tous. J'ai apprécié dans l'histoire que racontait hier notre frère, il parlait de l'action que fait cette dame à Glasgow. Et ce qui était remarquable, c'était de voir cet entraîneur, Sir Alex Ferguson, un homme qui a tout réussi dans le monde, combien il a pu être touché par la position de l'Église, au point lui-même d'ouvrir son cœur à la générosité. Comment toucher ces gens-là? Est-ce que c'est en essayant d'aller les voir tout au sommet? Ou est-ce que c'est en leur montrant l'image de Jésus? Et je crois que ça nous invite, si nous regardons dans cette église, au début de Acte 13 et au verset 1, est-ce que vous avez regardé la composition du conseil d'église? Il y avait dans l'église qui était Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaïn qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Barnabas, un juif et un lévite, originaire de Chypre. Siméon, appelé Niger, le noir, un africain, certainement un esclave qui avait été amené à Antioche. Et puis, si nous continuons, il y avait ensuite Lucius de Cyrène. Cyrène, une ville d'Afrique du Nord, un maghrébin. Et puis ensuite, il y avait Manaïn, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, un érudit élevé à la cour des rois, parmi les plus hautes classes de l'époque. Et puis ensuite, il y avait Saul, à la fois juif et romain, ancien religieux. Est-ce que vous vous rendez compte de la diversité culturelle, sociale, ethnique, au sein du conseil d'église? Et au travers de cela, il y a un témoignage pour le monde que dans l'église, des hommes de toute langue, de toute tribu, de toute nation sont réconciliés parce que Christ a brisé les murs qui séparaient les hommes. Est-ce que dans notre Église, nous cherchons à refléter cette réalité, à rétablir dans sa dignité chacun? Ou est-ce que nous sommes contaminés par notre culture et nous avons parfois un racisme qui est latent et on n'ose pas parler parce que, en tant que chrétien, on n'ose pas le dire? Ou est-ce qu'au contraire, nous acceptons de refléter Christ? Est-ce que, parce que nous sommes en France, nous voulons avoir des conseils d'église monoculturels, classe moyenne, blancs, ou est-ce que nous encourageons cette diversité-là et que nous sommes prêts à l'assumer? Je parlais une fois avec un frère qui était ancien dans une église à Paris, et je pense que ça n'arrive pas à Lyon, je ne sais pas. Mais à Paris, il me disait, dans l'église, nous souffrons de parisianisme. Il y a énormément d'églises où tant qu'on n'est pas médecin, bac plus 5, avocat, on ne peut pas avoir sa place dans le conseil d'église. Ce n'est pas le modèle de l'église selon le Nouveau Testament. Les anciens, les responsables sont choisis selon leur maturité en Christ, selon leur identité, et non selon les critères du monde. Et dans nos églises, nous devrions pouvoir avoir quelqu'un d'arrière-plan catholique comme quelqu'un d'arrière-plan musulman, quelqu'un qui est blanc comme quelqu'un qui est mat, quelqu'un qui était pauvre comme quelqu'un qui était riche, un ouvrier et un énarque. Et ces gens-là doivent pouvoir bosser à côté, parce qu'aux yeux de Christ, ils sont tous un. Et cela amène la question aussi, comment est-ce que dans nos églises, la moitié du corps de Christ, que sont nos épouses, nos mères, nos sœurs, trouvent leur place? Est-ce que nous avançons uniquement avec des hommes? Ou est-ce que nous positionnons aussi les femmes à leur juste place? Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des anciennes femmes ou qu'il doit avoir des femmes à tous les postes de l'Église. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que si Dieu a fait l'humanité, hommes et femmes, 50% de chaque, comment est-ce que dans l'Église, cette réalité-là se met en place? Qui, mieux qu'une femme, peut parler à des femmes? Sinon, voulons évangéliser dans nos villes toutes les personnes de sexe féminin, alors il nous faut des femmes investies dans les églises, qui ont un rôle, y compris autre que faire le repas, qui sont formées à l'évangélisation et qui peuvent engager la société. Souvent, nous regardons et nous voyons que là-dessus, nos églises reflètent tellement mal cette réalité qu'en Christ, il n'y a plus ni homme ni femme. Bien sûr, il y a complémentarité de rôle, mais néanmoins, le Saint-Esprit distribue ses dons à chacun. Sachons mettre chacun à sa place, homme ou femme, pour que l'Église reflète Christ et qu'elle puisse avancer. Je ne sais pas si c'est un problème dans votre Église, Mais en tout cas, je le vois dans beaucoup d'endroits où je passe. Et je vous encourage à avancer dans ce sens-là. Souvent, dans nos familles, les mères, les sœurs ont joué un rôle clé dans l'annonce de l'Évangile dans leur famille. Si je suis devant vous aujourd'hui, je suis convaincu qu'une grande partie, c'est ma mère qui m'a enseigné soir après soir les Écritures, qui a prié pour que je devienne un homme de Dieu. Et la réalité, c'est que dans nos églises, ce rôle des sœurs est tellement négligé. Osons encourager la diversité de l'humanité, parce que Christ nous a tous réconciliés. Il a accompli le salut pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour que notre témoignage extérieur organise Christ, nous ne devons pas avoir une absence de transformation. Est-ce que le monde voit que nous sommes transformés? Ou bien est-ce que nous avons des ambitions personnelles qui nous empêchent de refléter le caractère de Christ? Est-ce que nous sommes engagés dans l'action sociale? Est-ce que notre Église reflète la diversité de la création de Dieu? Si nous continuons à regarder l'Église d'Antioche, nous voyons ensuite qu'elle était profondément obéissante à Christ et au Saint-Esprit. Nous voyons deux exemples. Il y a tout d'abord l'arrivée de Agabus, ce prophète qui vient de Jérusalem et qui annonce cette famine qu'elle allait avoir. Et ce que je trouve remarquable, c'est que à ce moment-là, il n'y avait pas de famine. Les historiens pensent qu'elle a eu lieu environ 2 ans plus tard, suite à des sécheresses qu'il y avait en Égypte. L'Égypte était le grenier à blé de l'Empire romain, et 2 ans plus tard, il y avait une pénurie de blé dans tout l'Empire. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la base d'une prophétie, sur la base d'un discernement, l'Église a commencé à ouvrir les porte-monnaies et à s'engager pour soutenir ses frères et sœurs. Ça nous montre le cœur qu'il y avait, un cœur prêt à obéir au Saint-Esprit. Et ce que je me rends compte, c'est que souvent, nous avons des situations visibles devant les yeux, où le Saint-Esprit dit « Regarde, regarde ce qu'elle a, comment vous agissez par rapport à ça ?» Et souvent, nous laissons passer. Cette Église était également en train de chercher le Saint-Esprit dans le jeûne et la prière. Et c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit leur dit « Envoyez Paul et Barnabas ». Qu'est-ce que ça veut dire de notre côté? Ça veut dire que nous devrions chercher à avoir un discernement spirituel. Souvent, nous sommes enfermés dans nos traditions, nous restons dans ce que nous avons toujours fait. Peut-être que parfois, nous ne savons même plus pourquoi nous l'avons fait. C'est peut-être parce qu'il y a 2 générations, il y avait grand-père Sayens qui prêchait à la chair et qui avait mis telle chose en place, et c'était bien pour son temps. Et peut-être qu'il faut le laisser encore parce que c'est symbolique et qu'on ne peut pas tuer l'Église simplement en mettant un symbole de côté. Mais peut-être qu'il faut aussi remettre certaines choses en question. Est-ce qu'on est obligé de laisser les bancs d'Église dans le même sens simplement parce que depuis des années et des années, ils ont toujours été dans le même sens? C'est des questions légitimes à se poser. Et parfois, nous devons dire, est-ce que notre manière de faire est toujours en phase avec ceux qui nous entourent? Ou est-ce que le Saint-Esprit veut nous dire, là il y a quelque chose où vous devez avancer? Est-ce que nous passons du temps dans la prière et peut-être même dans le jeûne pour nous mettre à l'écoute de Dieu et à dire, Seigneur, quelle est la vision que tu as pour notre Église? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Dans quel sens on doit aller? Et puis la dernière chose que nous voyons de cette église d'Antioche, c'est qu'elle avait gardé la mission comme priorité. Dans Actes chapitre 13, versets 2 et 3, nous voyons que, alors qu'ils priaient, qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part Paul et Barnabas ». Et le texte nous dit sobrement, après leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Est-ce que vous vous rendez compte? Qui est-ce que cette Église a donné pour la mission? Paul et Barnabas. C'était les meilleurs d'entre eux. C'était sans doute les gars les plus qualifiés. Et ils les ont laissés partir parce que le Saint-Esprit avait dit « Laissez-les aller ». Est-ce que nous sommes prêts dans l'Église à laisser partir les gens qui ont peut-être les meilleurs dons, qui sont peut-être les plus compétents, simplement parce que notre priorité, ce n'est pas notre Église locale, mais la mission de Dieu? Cela veut dire aussi que si nous voulons les laisser partir, il faut déjà avoir anticipé avec une relève, d'où l'importance d'en former d'autres. Paul, dans Romains, disait ceci, Romains chapitre 10, à partir du verset 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Ce qui est intéressant dans cette succession de questions que pose Paul, c'est que parfois on s'arrête à l'avant-dernière. Comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et nous lisons ce texte pour dire à l'Église, il faut des ouvriers dans la moisson, levez-vous, engagez-vous. Mais Paul va plus loin. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le premier pas dans la mission, ce n'est pas d'aller, mais c'est d'envoyer. Et envoyer, ça, tout le monde peut le faire. N'importe quelle église peut être engagée dans la mission en envoyant. Que ce soit quelqu'un de nos membres, ou que ce soit quelqu'un qui a envie de partir et que nous soutenons. Quelqu'un qui est déjà dans le champ de mission et que nous aidons. Ce qui est intéressant, c'est que Barnabas et Paul n'étaient pas originaires de cette église-là. Ils sont arrivés après. Et l'église s'est associée à eux dans un partenariat pour les envoyer. Et ça pose la question, est-ce que nous sommes prêts à ouvrir nos yeux, à regarder ce que Dieu fait dans le monde entier et à nous associer en partenariat? Je parlais avec Guy ce matin de ce qui se passe en Inde du Nord. Et c'est incroyable parce que les missions qui implantent des églises là-bas fonctionnent essentiellement avec des locaux. Si moi je vais en Inde du Nord, je pense que je survis peut-être 6 mois dans les conditions dans lesquelles ils vivent. Parce que si je vais dans un village, je dois dormir par terre. Il y a tellement de bactéries, de tout ce que vous voulez, qu'au premier repas, j'aurais chopé au moins 20 de pesticides. C'est impossible pour moi d'y aller. Il faudrait parler le sanskrit et en plus 10 de langues locales. Impossible. Je suis blanc, ils sont noirs. Est-ce que vous voyez toutes les barrières qu'il y a? Mais la réalité, c'est que aujourd'hui, dans sa souveraineté, Dieu permet que nous soyons dans un monde qui se réduit de plus en plus. En quelques heures d'avion, vous pouvez partir sur un champ de mission à l'autre bout de la planète, être revenu ici. Et la question, c'est, est-ce que nous sommes prêts à donner la main d'association à des gens qui sont différents de nous, mais qui peuvent aller mieux que nous? Est-ce que nous sommes prêts à dire, d'accord, il vient de notre arrière-plan, c'est peut-être même pas la même confession d'église exactement, mais nous reconnaissons qu'il est utile dans la mission et nous sommes prêts à le soutenir. Je ne sais pas ce qu'il coûte d'envoyer un missionnaire français en Inde, mais ce qui est sûr, c'est que c'est énorme. Alors qu'un implanteur indien peut être soutenu avec seulement 50 euros par mois. Imaginez avec une seule de nos églises locales, combien nous pouvons soutenir pour implanter des églises de village en village parmi ceux qui n'ont jamais entendu l'évangile. La question, c'est, est-ce que nous voulons garder la mission que Dieu nous a donnée comme priorité? Finalement, l'église d'Antioche, c'est une église qui a commencé par assumer l'évangélisation. Ils n'ont pas attendu que quelqu'un d'autre s'en occupe. Ils ont commencé à agir avec vision, avec foi. Et puis ils ont accepté de la partager, d'avoir des gens qui faisaient différemment. Ah, c'est grec qui parlait aux grecs. Ça a dû irriter quelques autres. Mais ils ont accepté de jouer le jeu. Ils ont accepté de s'associer avec un Barnabas ou avec un Saul. Certainement des personnalités très fortes, mais qui sont venues. Et on leur a dit, venez et aidez-nous à former ces gens. Et sans doute les responsables locaux ont accepté de laisser la place pour avancer. Et lorsqu'ils assumaient l'évangélisation, qu'ils la partageaient, alors ils étaient prêts ensuite à déléguer. Et seulement ensuite. Parce que si nous commençons par déléguer, alors simplement nous désobéissons à l'évangile en n'entrant pas nous-mêmes dans la mission que Dieu nous a confiée. Je voudrais juste conclure en vous proposant quelques questions. Et si quelqu'un peut éventuellement les noter, les rediffuser, comme ça vous pouvez réfléchir après personnellement ou en église. Première question, est-ce qu'il y a un domaine où je discerne l'action souveraine de Dieu et où je peux le rejoindre? Dans votre vie comme en église. Ça peut être quelque chose d'horrible. Pour eux, c'était la persécution. Mais dans ce contexte, ils sont accrochés à Dieu et ils étaient prêts à le suivre. Deuxième question, quels aspects de notre société, de notre culture, de notre tradition d'église, l'évangile doit-il confronter? Quelles vérités sont bouleversées par le fait que Jésus est Seigneur? Quels changements radicaux cela implique-t-il? Réfléchissez dans votre vie. Est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent pour rentrer dans la mission et vous vous dites un moment, mais si Jésus est Seigneur, alors ça doit être détrôné. Et Jésus doit prendre cette place-là, quel qu'en soit le prix. Est-ce qu'il y a un domaine de ma vie où j'empêche Dieu de se manifester? La main de Dieu était sur eux parce que c'était une église qui vivait dans la sainteté. Est-ce qu'il y a un péché personnel qui t'empêche? Je suis souvent surpris quand on lit dans le livre de Josué et qu'on voit la bataille d'Aï, où le peuple d'Israël sort de Jéricho, ils vont à la ville suivante, et à cause d'un seul homme qui avait péché, c'est un échec pour tout le peuple. Chacun en a un rôle à jouer dans la mission et ça implique que tous nous menions une vie sainte. Quatrième question, comment à l'image de Barnabas, je peux encourager d'autres à s'investir dans la mission, rentrer dans cette mission de faire des disciples, de prendre ma part là-dedans? Est-ce qu'il y a des partenariats que je peux développer qui permettront la croissance de l'Église? Et la question c'est, quels traits de caractère je dois développer pour cela? Souvent, nous restons très seuls, un petit peu de manière égoïste, et je crois qu'on doit commencer à se dire, mais est-ce que cette chose que je peux faire tout seul, je peux aussi prendre quelqu'un pour le faire avec moi, pour que nous puissions avancer ensemble? Question suivante, comment suis-je perçu par ceux du dehors? Quels points dois-je changer pour que je ressemble davantage à Jésus, individuellement et collectivement? Comment est-ce que je peux me mettre à l'écoute du Saint-Esprit comme l'Église d'Antioche et chercher la volonté de Dieu pour m'engager dans sa mission? Peut-être que ça demande de prendre du temps dans la prière, dans le jeûne, et de dire « Seigneur, comment nous pouvons avancer ?» Et puis la dernière question, comment puis-je être connecté à la mission mondiale en contribuant à l'envoi d'ouvriers? C'est valable pour la France. Il y a encore des tas de régions où nous avons besoin de nouvelles églises qui puissent manifester l'Évangile. Ça marche jusqu'aux extrémités de la terre. Comment est-ce que je peux prendre part à tout ça? Je vous laisse ces questions-là en réflexion, que vous puissiez les méditer, vous en imprégner, vous rappeler que Christ est souverain sur toutes ces choses-là et qu'il s'approche de nous dans notre humanité. Il nous accepte tels que nous sommes, avec nos doutes, nos faiblesses. Et en même temps, gentiment, il veut nous pousser pour que nous puissions avancer et dire « Voilà, voilà dans quel sens je veux t'amener. Est-ce que tu acceptes de rentrer dans la mission que je te confie ?» Je voudrais terminer en priant. Père, nous sommes reconnaissants pour ta parole. Merci de nous l'avoir donnée. Merci pour la manière dont tu es parvenu jusqu'à nous, souvent au prix de grands sacrifices de chrétiens avant nous qui ont donné leur vie pour que nous puissions l'avoir aujourd'hui. Et Seigneur, nous voyons dans ta Bible l'exemple de chrétiens radicaux comme cette église d'Antioche qui ont donné leur vie pour l'Évangile dans des circonstances difficiles. Et Seigneur, nous te prions que nous puissions méditer cet exemple. Je vois moi-même dans ma vie combien de fois je suis désabusé par les circonstances, combien de fois je me replie sur moi-même au lieu de croire que tu es souverain et que tu veux nous utiliser pour ta mission, quel que soit l'environnement dans lequel nous sommes. Je te prie que nous puissions regarder autour de nous, discerner avec l'aide de ton Saint-Esprit où est-ce que tu travailles déjà et que nous puissions te rejoindre là où tu es. Que tu nous donnes d'annoncer la parole avec fidélité, de confronter ce qui dans ce monde doit être changé par la puissance de l'Évangile. Que nous puissions, comme Barnabas, encourager les autres, encourager des partenariats dans l'Église, connecter nos différents dons pour que chacun trouve sa place et que ton Église puisse continuer à grandir. Que nous puissions avoir un témoignage qui t'honore, être semblable à Jésus pour que nous soyons crédibles aux yeux du monde. Que nous puissions être à l'écoute de ton Saint-Esprit et être prêts à considérer la mission comme une priorité. Je te prie que nous puissions agir à la fois au niveau local, là où tu nous as placés, mais aussi être impliqués dans ta mission qui va jusqu'aux extrémités de la terre et contribuer pour notre part à tout cela. Seigneur, comme tu l'as dit à tes disciples, dans ce contexte-là, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Tu as toute autorité. C'est d'abord toi qui agis et parce que tu agis, que tu es souverain, nous pouvons te rejoindre et te suivre. Tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, nous savons qu'un jour, dans l'éternité, nous serons avec toi et nous pourrons nous réjouir de ce que tu auras fait au travers de nous. Mais dans cette vie qui est courte, Seigneur, je te prie, pour moi, pour mes frères et sœurs, que nous puissions investir notre argent, notre temps, notre vie, dans les richesses éternelles, celles que nul ne pourra nous ravir, que nous lâchions les choses futiles de ce monde pour nous fixer sur ta mission, parce que le salut de ceux qui nous entourent en dépend. Donne-nous d'être fidèles, d'obéir avec simplicité à ton ordre missionnaire, et qu'au travers de nous, le monde soit gagné pour toi. Amen. Amen.